La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
Trois Kleenex. Un numéro, 653-9933.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
16h42, Pierre-Yves, bonjour.
Salut.
Tu vas me parler de la SAQ et le service en ligne.
Oui. On veut faire du service en ligne SAQ. On veut augmenter le service en ligne d'ici 3 ans.
Avec livraison à domicile?
Oui, il y a déjà ça, Sylvain. Mais le problème présentement, c'est que là, on veut faire passer ça de 2% à 3% des ventes totales. À 6%, excuse-moi, des ventes totales d'ici 2023 en réponse à la COVID. Mais pour l'instant, il y en a même pas moins que le service à domicile. Écoute bien ça. 3 à 5 jours de délai. Tu sais, quand tu... Il faut planifier en maudit la SAQ pour faire un délai de, pour prévoir un délai de livraison de 3 à 5 jours. En plus, c'est sous-traité à Puro Later. En plus, Puro Later, je sais pas si t'as déjà vécu ça. T'es jamais là quand ils livrent. là, ils laissent un petit carton. Faut que t'ailles au centre de service Puro Later. Finalement, tu passes plus de temps à courir après ton paquet qu'à aller directement à la SAQ. Deuxième point, on parle de caisse de vin ici. C'est quoi le problème d'une caisse de vin? C'est le poids.
C'est lourd.
C'est lourd. Puis si tu veux livrer juste 3 bouteilles pour l'instant, tu payes, mettons, 51$ de 3 bouteilles. Je vais t'en tester tantôt. 6$ de livraison en succursale, puis 12$ livré à la maison. Mais là, sur une commande de 51$, ça commence à faire...
Ben, c'est une bouteille, 12$.
Ben, ouais.
C'est une bouteille.
Une bouteille pour faire un coco au vin, à peu près.
Non. Il y a du bon vin à 10$ à l'aise.
Je dois avouer que moi, je suis à 15 des fois. Là, je beurre épais. Mais Sylvain.
Oui.
Il n'en demeure pas moins que quand tu y penses, là. Quand je vois ça, livraison en succursale. OK, moi, je me fais livrer 3 bouteilles de vin en succursale.
Ça donne quoi, ça?
Ben, dans le fond,
ils n'ont pas la bouteille. C'est pour les grosses bouteilles rares, sinon.
Ou c'est simplement, t'es vraiment paresseux, tu veux pas, ou t'as peur de la COVID big time, puis tu veux pas les assembler toi-même. À 2$ l'assemblage, je vais aller faire le tour des rangées.
Ben oui.
Donc, mais c'est ce que la SAQ, c'est ça le problème. Parce qu'ils disent qu'à 75$ et plus, présentement, tu payes pas des frais de livraison en succursale, j'espère. Et à domicile, c'est quand même 12$. Alors, tu vois, c'est un peu fixe. Donc, finalement, la livraison de la SAQ, c'était un coût collectif, là. Parce que là, t'as des syndiqués qui vont placer des bouteilles dans les boîtes. On le charge un certain prix. Un filet de livraison à un sous-traitant. Donc, on perd de la marge parce qu'on se rend pas à la SAQ. La question est, est-ce que la SAQ est si oui, tant que ça, une business de livraison. Personnellement, j'ai deux points bien importants.
Honnêtement, qui a déjà fait livrer... J'ai l'impression que c'est vraiment juste les amateurs de grand
vin. J'ai voulu quand tu voulais des scotch spéciaux qui n'étaient pas disponibles.
C'est ça, ouais.
Mais finalement, ils n'étaient pas disponibles en ligne. Fait que t'as pas plus avancé.
T'es amateur de scotch, toi?
Oui.
Ah,
McSween,
ouais.
Tu sais.
Ah oui, c'est écossais. Ben oui.
Bon. Quel genre de scotch es-tu plus tourbé?
Oh non, dans les goûts. Talisker, je te dirais.
Talisker, OK.
Ouais. Talisker, c'est une bouteille, j'avoue qu'elle est chère, là, 80. Là.
Ouais, moi, je suis plus dans les Lefroy et compagnie. Là.
Ah, Lefroy, je ne sais pas comment on le prononce, mais oui.
Lefroy, une fois.
En fait, pour moi, celui que tu es en train de nommer, parce que je le prononce mal, là, c'est l'équivalent du... quand tu achètes des sushis, là, ils te donnent à côté du gingembre.
Pour
resetter ton goût. Ben, la frog ou la freg, c'est un peu ça. Hein? Tu resettes ton goût, tu regoutes à d'autres choses.
Ben, moi, je suis tellement pas bon là-dedans. Moi, je prends, quelqu'un m'offre un scotch. Des fois, je sais à quel point ça vaut cher. Puis, il y en a qui. Mais dans ma face, là, je fais tellement à croire des fois parce que c'est des cadeaux, tout ça, que j'aime ça. Mais ça a l'air que ça paraît dans ma face. Je grimace. C'est trop fort. Je trouve ça trop
mais là,
fort.
Il faut s'habituer.
Là, c'est bien, faire. Commence, tu sais, prends un sein léger. Puis écoute, t'as n'importe quel scotch à côté, là, tu vas le trouver bon. Ça, c'est le truc. Ça s'appelle, tu sais, comparer. Tu sais, tu comprends?
Peut-être c'est comme manger c'est pas des bons
steak,
scotch.
Ouais. Steak minute avec à côté un bon steak juteux. Mais toujours est-il, c'est là que je déroge un peu. Là, mais
tu fais livrer, tu t'es déjà fait livrer un scotch.
Oui, mais ça n'a pas marché, je ne l'ai pas fait finalement. Mais la question est plus du genre, quand tu es à SAQ, quand tu fais livrer, c'est parce que tu as livré une bonne quantité, ça vaille la peine. Alors la question, est-ce que il y a beaucoup de gens qui ont les moyens d'avoir des stocks en liquide à la maison? Parce que ça, c'est l'autre affaire. Si tu veux avoir 75$ et plus, donc tu as au moins 6-7 bouteilles, faut que tu planifies, tu fasses livrer. Alors qu'il y a plein de monde qui font comme moi, c'est-à-dire qui allaient au fur et à mesure et pas nécessairement stocker à la maison. Peut-être pour des
mais
produits.
Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont achetés des celliers. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus ça quand on rentre dans les maisons, même dans les condos, parce qu'ils en font des petits maintenant. Moi, c'est pas grand chez nous, mais j'ai un petit cellier, là, pas une grosse affaire. Là.
Ouais, mais Sylvain, si t'as une marge de crédit de 2000$ et t'as 1000$ de vin dans ton cellier, il y a quelque chose qui marche pas, tu comprends? Parce que si tu gardes pas tes bouteilles parce que t'es bois au fur et à mesure, puis que t'as immobilisé des cash flows dans ton cellier,
Non, mais là, le mot cellier veut pas dire que tu magasines dans l'espace cellier à la SAQ. Moi, dans mon cellier, il y a des bouteilles de 12 piastres.
Ben justement, mettons que tu as des bouteilles de 12 piastres. Pourquoi tu stockerais des dollars dans ton cellier alors qu'ils pourraient être dans ton compte de banque sans payer d'intérêt sur ta carte de crédit ou ta marge de crédit? C'est ça mon point, c'est de dire, y a-t-il une si grosse clientèle que ça pour la livraison? C'est une question.
Ben, moi, c'est surtout la façon. Si tu me dis que c'est plus prolétaire, parce que moi, ça, là, ça, je déteste ça, rentrer chez nous.
Plus,
le petit collant qu'ils mettent, là, ou ta boîte postale, il faut que je me rende à une pharmacie à quelque part ou ailleurs. Hey, c'est pas une livraison, c'est moi qui vais le chercher. J'adore Amazon pour ça. Amazon, eux autres, ils prennent le colis, puis ils te le mettent sur ton balcon.
Puis,
ton,
tu te le fais voler.
Non, qui c'est que c'est déjà fait de voler ces colis?
Et les moi.
Ah ouais?
Ben oui. Écoute, il a demandé...
Ah, Montréal, on sait bien.
Hey, j'ai fait livrer un ordinateur, ils l'ont laissé sur mon perron, pas Amazon, Microsoft. Ils avaient laissé l'ordinateur sur mon perron. 2000 piastres sur le perron. Bang! Ben oui! Après ça, je me fais venir une guitare des États-Unis, toi.
Ouais.
OK? Pas d'Amazon, vraiment du fournisseur, tu sais. Puis là, je reçois un appel, dis, yes, this is the guy from Perlator. Oui. I've got a small package for you. You're not there, you want me to leave it there? J'ai dit, ben là, si tu veux, je le laisse, si tu veux le laisser là, mais est-tu petit le paquet? Si, tu sais, est-tu discret? Oh yeah, a small package, no problem. J'arrive chez nous, hey, une guitare style Telecaster, sa galerie, toi. Direct sa rue.
T'aurais pu se faire voler.
Il m'avait pas dit que c'était ça. Mais, en fait, tout ça nous amène à parler de la libéralisation du vin, dans le fond, c'est que, en plus, les produits en ligne sont pas tous là, donc, si t'es un gars d'habitude qui boit tout le temps ton ménage à trois, ça va. Mais si tu vas avoir un produit un peu moins, plus rare, pas trop présent, est-ce que tu vas pouvoir commander tout? Et est-ce qu'on va enfin permettre aux petites buvettes, aux restaurants de vendre du vin nature ou du vin qui a des importations d'à peu près 300-400 bouteilles par année? Puis c'est sûr que la SAC te promettra pas ça.
Est-ce qu'on peut commencer à permettre aux microbrasseries de livrer ces temps-ci en termes de pandémie? Je pense que c'est Québec solidaire qui se bat pour ça. Mais on n'a pas tort.
Grand combat, personnellement.
Entre toi et moi.
Oui,
mon voisin d'en face, là.
Oui.
Il se fait livrer sa caisse de 24 du dépanneur tous les jours, puis il y a personne qui empêche. Pourquoi la microbrasserie?
Ben ouais, exactement. Pas? Comment ça se fait qu'il y a une loi qui empêche une microbrasserie parce qu'il faisait beaucoup d'argent?
Ça avec un permis de restauration des fois, il y a ça aussi, non?
Mais là, regarde ça, on pourrait libéraliser. Quand c'est rendu que c'est Québec solidaire qui veut plus de libéralisation, on a un
hey,
problème.
Attends une minute. Hey. Les microbrasseries, il faut que je t'apprenne de quoi si tu le sais pas déjà. Ça, tu sais peut-être.
Ah oui,
on a peut-être déjà parlé. Donc, tu brasses ta bière chez vous, Sylvain. Là.
Ouais.
T'as pas le droit de la boire chez le voisin?
Non. Non, hein? Je confirme.
T'as pas le droit.
J'ai brassé ma bière, puis quand j'en donnais à mes collègues, là,
c'était illégal.
C'était pas légal, mais il fallait pas trop pas le dire.
T'as pas le droit d'apporter ta bière dans un party parce que t'as le droit de microbrasser ta bière au Québec si elle est consommée sur le lieu de brassage.
Ouais.
Alors là, si tu brasses la bière chez nous, puis là, je me rends chez une fête chez mon voisin, juste au bord de la clôture, là, 5 pieds plus loin, et là, j'étais illégal.
C'est vrai? Ouais. C'est vrai? On l'a vécu, nous autres, chez nous.
Online Québec.
Pour vrai?
Ben, mon petit frère, il avait fait ça pour un travail du secondaire. C'était cégep.
La police
non,
a débarqué?
C'était pas secondaire, c'était cégep. Mais il avait brassé une bière pendant des mois de temps. C'était comme un gros projet pour le cégep. Okay. Puis évidemment, elle était pas buvable à la fin, mais il l'avait amené. On l'avait embouteillé. On avait fait mettre, ben pas moi, là, mais ma mère puis lui, il avait fait mettre une étiquette. La bière s'appelait la Credo. Puis il était allé à un party à un moment donné. Puis on avait amené à ses amis. Mais techniquement, il avait pas le droit.
OK, c'est pas fait arrêter par le.
Non, écoute.
La police de la
Alors,
bière.
On le salue, si jamais il écoute. Et il a présentement pris le maquis. Il est actuellement dans la forêt, il se cache. Et,
il est caché.
Mais sa bière n'est pas buvable.
Ouais, ben, t'es pas buvable.
Tu veux me parler de la banque Laurentienne qui vient de nommer à sa tête une présidente.
Oui, et c'est la première fois qu'une banque canadienne a une présidente. Parce qu'évidemment, il y a eu le mouvement Desjardins, mais le mouvement Desjardins n'est pas une banque. Et donc, ça ne rentre pas dans la définition de banque. Donc, mais... C'est un changement de garde quand même. Le nom de la dame, c'est Rania Llewellyn, OK?
Ouais.
Et elle devient la première présidente et chef de la direction. Elle vient de la Banque Scotia. On va dire une affaire, elle va avoir un choc. Hein?
Ouais.
She's gonna have a shock.
Parce que... Alors, elle a tout un mandat, parce que la Banque Laurentienne, tu nous en as parlé beaucoup ces dernières années que ça va pas bien.
Mais c'est pas que ça va pas bien, ils font des profits. Je veux pas, tu sais, là, il y a des gens qui paniquent, là. Ce que je veux dire, c'est que la Banque Laurentienne est une petite banque.
Ouais.
Et c'est comme la Banque Laurentienne comparée à Banque Royale, c'est comme un café à côté d'un Starbucks. T'sais, c'est ça. Donc, la dame quitte la Banque Scotia et va dans une banque où il y a eu le but de M. Desjardins, le prédécesseur, c'était de dire, on va éliminer tranquillement le service au comptoir pour être la première banque à virer conseil parce que sur le transactionnel, on peut pas être en compétition avec les grosses banques, sont trop grosses, sont trop d'économies d'échelle. On peut pas les battre. En plus, on est syndiqués. Il y avait ça, c'est comme logique. Et il était pas fou, M. Desjardins. Il était all-in là-dedans. Mais il s'est buté à, disons, à une confrontation avec les employés, avec un mauvais temps, la COVID-19, pour l'évolution de la banque de même. Et finalement, il a fait le mouvement de ce que les autres banques vont faire, mais il n'y avait pas d'application cellulaire. T'sais, tu peux pas dire qu'on va être une banque plus numérique, puis qu'il faut que tu ailles sur un site web avec ton téléphone. Et ça me pose la question la suivante. Quand tu es dans une banque, Sylvain, tu es attaché. Tu as 5-6 produits à la banque, un REER, un CELI, de l'épargne, une marge de crédit, un dépôt. Là, tu te dis, OK, là, je dépose ma paye là. Pour changer de banque, faut vraiment que tu sois insatisfait ou que tu aies une offre ailleurs incroyable, parce que c'est compliqué. Alors, tu es président de la banque Laurentienne à partir de demain. Là.
Oui.
C'est quoi ta stratégie pour convaincre un Sylvain de changer de place? Ou pour convaincre une Madame Crête?
Mais t'as raison, on dit que c'est vrai qu'on est fidèle à nos institutions financières. On magasine pas, ben ça, c'est pas qu'on... Ben, comme tu le dis, parce qu'on a nos habitudes, puis tout est souvent, on a des assurances-là, ou un prêt, ou une hypothèque.
Alors, qu'est-ce qui t'a convaincu à l'origine d'être chez ton institution financière?
Ben, moi, c'était en deuxième année.
La caisse scolaire.
Ben oui. Non, mais c'est niaiseux, mais Desjardins, tu sais que s'il y a une autre entreprise qui met les pieds au primaire, ça va être un scandale. McDo qui veut donner de quoi, ça marche pas, les producteurs.
Même si c'est un
quoi,
mais Desjardins qui était plus créatif, ça passe.
Ouais, Desjardins, ça a tout le temps passé. Ils faisaient leur... Ben, j'avais mon petit carnet, là, il était jaune-orange dans le temps, là. Puis je suis resté chez Desjardins depuis ce temps-là.
Ouais, mais moi, j'ai mes parents, j'ai ouvert mon compte avec mes parents, genre, à peu près la deuxième ou troisième année.
Fait que me faire changer, ça va être tough.
Donc, c'est au début de votre carrière qu'il faut le faire avant que vous ayez une paye, tu comprends?
Oui.
Faut influencer tes parents. Faut montrer ça comme si c'était un pacte générationnel. Faut que tu convainques des employeurs de faire affaire avec la banque, donner des avantages aux employés. Faut que tu fasses du luring bancaire. Faut que tu attires le monde. Et donc, présentement, est-ce que vous autres, vous êtes genre à avoir 6-7 banques avec 6-7 types de comptes, puis des marges de crédit, puis des prêts hypothécaires à gauche et à droite?
Non.
Si ta banque te donne un bon taux, tu vas aller là pour ton hypothèque, là. Donc, c'est tough en maudit prendre une petite banque puis te battre avec les autres, avec toute l'inertie du client. Donc, tu vas aller dans quoi? Dans le préinvestissement? Dans le placement? Est-ce que toi, si t'es chez Desjardins, tu vas aller chez ton placement ailleurs? Si t'es chez Banque Scotia, est-ce que tu vas déplacer tes comptes pour 50$ au club price? Au Costco, tu comprends? Son défi est là. La croissance, c'est pas facile parce que maintenant... Tous nos services sont intégrés. Avant, tu avais ton compte de banque, tu allais retirer ton argent en cash au comptoir puis tu vivais ta vie. Ça, c'était en 86, tu sais. Mais en 2020, là, tout est linké. Tu as un rapport de tes dépenses. Ton épargne se prend automatique dans ton compte. Ta paye se dépose là. Ta marge de crédit se paye. Ton prêt hypothécaire se fait par virement. Tu ne fais plus de paiement par toi-même. Puis quand tu en fais par carte de crédit, ouais, ça se répercute directement dans ton bilan de ta banque.
Ouais.
C'est
alors,
c'est un défi, là.
On va souhaiter bonne chance. C'est un bon défi.
Écoute, je vais te donner une idée, là. La Banque Laurentienne, les actions ont baissé de 42% depuis un an. Et puis, la Banque Laurentienne fait, en 2019, 173 millions de bénéfices. La Scotia, 8,8 milliards.
Mais ouais, soyons positifs, c'est un beau défi pour elle.
Ah, c'est un beau défi.
Comme c'est la première femme, ben ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la première femme dans tout le milieu bancaire au Canada. Donc, si jamais elle réussit ça, ben, ça sera tout à son mérite.
Exact. Et ça va peut-être amener une autre touche aussi de dire, on va calmer un peu le jeu avec M. Desjardins qui était un peu plus confrontatif. Maintenant, peut-être qu'on a quelqu'un d'un peu plus rassembleur. On sait pas.
Merci, Pierre-Yves.
Salut.
On a quand même franchi un bon bout de chemin. Hein. Pensez à l'image des banques. Je sais que tu as déjà travaillé là-dedans,
oui.
Elisabeth. Mais moi, je te parle de plusieurs années, là. Les femmes étaient où dans les banques? Au comptoir.
À réception, oui.
T'es allé au comptoir. Mm-hmm. La secrétaire, c'était une femme. Au comptoir pour aller mettre ton livret à jour dans le temps, etc. Ça, c'était des femmes. Là.
Ça, j'ai fait, moi.
Ouais. Mais dès que tu montais en haut, c'était des gens.
Les boss en cravate.
Les boss en cravate, des gars. Et là, ça aujourd'hui, en 2020, Banque Laurentienne, c'est une femme qui est la première numéro un. Ça a changé pareil. Hein. Des fois, je sais qu'il y a encore du chemin à faire, vous allez dire. Mais il faut le dire quand ça va bien, là. J'écoutais un reportage sur la crise d'octobre. Il y en a beaucoup ces temps-ci. Il y avait eu une grosse manifestation contre M. Gordon, le boss du Canadien national, le CN, dans les années 60. Sais-tu ce qu'il avait dit, lui, Gordon? À un moment donné, il avait découvert qu'au CA du CN, Canadien National, dont le siège social est à Montréal, c'était où, là, dans le coin de la gare centrale, là, le CN, c'est là, il n'y avait aucun francophone sur le CA du CN. Il avait demandé au Gordon en question, pourquoi il n'y a pas de francophone au CA du Canadien National? Ah, mais c'est pas compliqué. Il n'y a aucun scandale là-dedans. Et c'est tout simplement qu'ils ne sont pas assez compétents. Il dit, j'ai aucun francophone assez compétent pour être là, c'est tout. C'est pas c'est pas du racisme ou tout ça. Il dit, on les aime bien, les francophones, mais
c'est
pas
compétent
pour être au CA.
Mais ça, c'est
pas l'époque de nos grands-parents. C'est l'époque de mes parents, moi, puis les fins des années 60. C'est pas mal l'époque de... Il y en a qui nous écoutent, qui ont connu ça encore, là. Alors, les femmes aux caisses, derrière le comptoir. Vous mettez les livrets à jour, souriantes, That's it, c'est votre place. Les francophones au CN, en bas, là. Vous êtes bons pour rouler locomotive, mais that's it. Et on est rendu aujourd'hui que qui est le président? Le président de Via Rail, un francophone, si je ne m'abuse.
Oui.
Le CN aussi, ça a été dirigé par des francophones. On a maintenant une femme à la tête de la Banque Laurentienne. Il y a des progrès, là. Je sais que pour certains militants, et ça, c'est, il faut toujours un peu, des fois, noircir la situation. Mais moi, j'aime ça voir, des fois, le progrès.
Mais il y a une période assez charnière pour la place des femmes dans le travail. Hier, j'écoutais l'émission Faire œuvre utile d'Émilie Perrault. J'écoutais un ancien épisode. Ouais. Et la femme racontait que, bon, elle, il y avait une émission québécoise, l'émission Lâcher prise. Il y avait une scène là-dedans qui était vraiment venue de la rejoindre. Puis le thème de l'émission, c'était sur ça. Mais elle racontait que quand elle avait 23 ans, elle avait déjà deux enfants. Le premier était plus ou moins prévu, le deuxième, 100% de surprise. Puis elle dit que c'était une époque où les femmes, on était en train de redoubler d'efforts pour prendre notre place sur le marché du travail. Fait que moi, là, l'époque dans laquelle j'étais, j'ai eu mes deux enfants à 23 ans, mais c'était hors de question que je prenne 2-3 ans de congé de maternité. Il fallait que je sois au travail pour montrer que je suis capable de le faire. Maintenant, c'est accepté, on peut prendre des congés de maternité. Avant, cette époque-là, les femmes restaient à la maison, la question se posait pas. Mais cette période-là, c'était un effort immense pour les femmes de montrer qu'on est capable à la fois d'être mère et à la fois de travailler aussi. Puis elle, la scène qui l'avait marquée, c'est qu'elle, ça a été une époque où j'avais plus d'énergie. Je mettais 100% de mes énergies dans mes enfants et 100% dans mon travail. Fait que j'en manquais. Puis la scène de lâcher prise, c'est une scène où Sophie Cadieux, qui joue le personnage de Valérie, elle oublie son enfant dans l'auto pendant 10-15 minutes à peu près. Parce qu'elle en a trop sur les épaules, puis là, elle capote. Puis la fille, la dame qui racontait ça hier, elle dit, moi, ça m'est arrivé, j'ai oublié mon fils pendant une genre 7-8 minutes maximum. Mais je l'ai vraiment oublié pendant 7-8 minutes.
Il n'y a pas de danger, là, 7-8 minutes, mais c'est juste que
mais le principe qu'elle l'oublie.
Imagine pas comment elle se sent.
Ben oui, mais elle dit, j'essayais d'en faire beaucoup au travail, puis j'essayais d'en faire beaucoup à la maison, parce que c'était extrêmement difficile à ce moment-là de prouver qu'on était capable de le faire. T'sais.